Ramage. Ramage est un mot de l'ancienne langue où il est adjectif et non substantif. Et de droit, il ne peut être qu'adjectif. Du fait, il est devenu substantif. Et c'est ce fait qui appartient à notre pathologie. Quelqu'un, que je ne supposerai ni très lettré ni très ignorant, entend parler d'étoffe à ramage, de velours à ramage, et il sait qu'en cet emploi, ramage signifie branche d'arbre, rameau. De l'autre côté, il a chez lui en cage des serins dont le ramage lui plaît et le distrait. Ce ramage-ci désigne le chant des oiseaux. S'il a quelque tendance à réfléchir sur les mots, il pourra se demander d'où il vient qu'un mot ait des sens si différents, et s'il ne faut pas chercher pour le second ramage un radical qui contienne l'idée de chant. Ce serait une erreur. Quelque dissemblable de signification que soient ces deux ramages, ils sont semblables de formation. Dans l'ancienne langue, ramage signifiait de rameau, branchier, et venait du latin ramus, en branche, par le latin barbare ramaticus, oiseau ramage, oiseau sauvage, branchier. Chant ramage, chant des rameaux, des bois, des oiseaux qui logent dans les bois. Et c'est de la sorte que ramage, devenant substantif, a pu exprimer très naturellement des figures de rameaux et le chant des oiseaux. Regardez. La lutte entre la latinité et le germanisme appartient à la pathologie, car notre langue est essentiellement latine. De cette lutte, regardez est un témoin le plus digne d'être entendu. Les mots latins, qui signifient « porter l'œil sur », n'avaient point trouvé accueil. Respectre de l'espicere ne s'était pas formé, et respectus avait fourni respect avec un tout autre sens. Aspicere aurait pu donner aspectre et ne l'avait pas donné. Dans cette défaite de la latinité, le germanisme offrit ses ressources. Il fallait, il est vrai, détourner les sens, mais l'usage, on le sait, est habile à pratiquer ses opérations. Le haut allemand a un verbe « fahren » qui est entré dans le français sous la forme de « garder ». Outre ce verbe « fahren » signifie aussi « faire attention »,« prendre garde ». Et c'est là l'exception qui s'est prêtée à devenir celle de « jeter l'œil sur ». Non pas que la langue ait pris « garder » purement et simplement, elle le pourvut d'un préfixe. Et ainsi armé, « garder » s'employa pour exprimer certaines directions de la vue. Et ce préfixe est double, « s » ou « ré », qui sont également anciens. L'ancienne langue disait « esgardé », qui est tombé en désuétude. Mais non le substantif « esgard », »,« égard ». Elle disait aussi « regarder », qui est notre mot actuel avec son substantif « regard ».« Égard » et « regard », outre leur acception quant à la vue, ont aussi celle de « soin », d'attention, qui appartient au radical « fahren » et qui est la principative. Ils sont à mettre parmi les exemples où l'on passe d'un sens moral à un sens physique. Cela est plus rare que l'inverse. Sensé, S-E-N-S-E. C'est un des cas de pathologie que certains mots, sans raison valable, cessent de vivre. Verborum moetus, interit aetas, a dit Horace. L'ancien adjectif sonné, qui vient de l'allemand « sin », comme l'italien « sebno », « sens »,« jugement », a été victime de ces accidents de l'usage. Mais sa disparition, c'est une lacune regrettable. Et c'est vers la fin du XVIe et le commencement du XVIIe siècle qu'il a été remplacé par « sensé ». Quel est le téméraire qui, le premier, tira « sensé » de « sens » ou, si l'on veut, du latin « sensatus » Nous n'en savons rien. Nous le saurions peut-être si quelques Vosgelards s'étaient récriés contre son introduction. Personne ne se récria, le purisme du temps ne lui chercha aucune chicane, et aujourd'hui on le prend pour un vieux mot, tandis qu'il n'est qu'un vieux néologisme. sensualité. Oh, ce ne sont pas seulement de vieux mots qui meurent, selon l'adage d'Horace, ce sont aussi de vieilles significations. On en a vu plus d'un exemple dans ce fragment de pathologie linguistique. Sensualité mérite d'être ajoutée à ce que j'ai déjà rapporté. En latin, sensualitas signifie sensibilité, faculté de percevoir. C'est aussi le sens que sensualité a dans les anciens textes. Mais au XVIe siècle, on voit apparaître la signification d'attachement au plaisir des sens. Dès lors, l'acception ancienne est véritable s'oblitère. L'autre s'établit uniquement, si bien qu'on ne serait plus compris si l'on employait sensualité en sa signification propre. D'où vient cette déviation? Elle vient d'une acception spéciale que reçut le mot sens. À côté de sa signification générale, ce mot, particulièrement dans le langage mystique, prit au pluriel la signification des satisfactions que les sens tirent des objets extérieurs, des plaisirs plus ou moins raisonnables et matériels qu'ils procurent. Et c'est grâce à cet emploi que sensualité, dépouillant son ancien et légitime emploi, n'a plus présenté à nous autres modernes qu'une idée péjorative. Sevrer. Sevrer doit être mis à côté d'accoucher pour le genre de pathologie qui consiste à substituer à la signification générale du mot une signification extrêmement particulière qui, si l'on se réfère au procédé de l'usage, semble n'y avoir aucun rapport. Ainsi, il ne faudrait pas croire que sevrer compte un rien qui indique que la mère ou la nourrice cesse d'allaiter le nourrisson. Sevrer, dans l'ancienne langue, signifie uniquement séparer, est en effet la transformation légitime du latin séparare. Et quand on voulait dire cesser d'allaiter, on disait sevrer de la mamelle, sevrer du lait, c'est-à-dire séparer. Et l'usage a fini par sous-entendre lait ou mamelle, et dès lors, sevrer a pris le sens tout spécial dans lequel nous l'employons. En revanche, il a perdu son sens ancien et étymologique, d'où le néologisme séparé, néologisme qui date du XIVe siècle, l'a remplacé. Sobriquet appartient de plein droit à la pathologie. Il lui revient par la malformation, car tout porte à croire qu'il en a été affecté soit par vice de prononciation, soit par confusion de l'un de ces éléments avec un vocable plus usuel. Il lui revient encore par l'étrange variété de signification qui a conduit depuis l'acception originelle jusqu'à celle d'aujourd'hui. Le sens propre en est « petit coup sous le menton ». Ce sens passe métaphoriquement à celui de propos railleur, et finalement à celui de surnom donné par dérision ou autrement qui est le nôtre. En étudiant de près le mot, je m'aperçus que « sous-briquet », c'est l'ancien orthographe, est exactement synonyme de « sous-barbe » et de « sous-pape », qui signifie aussi « coup sous le menton ». « Sous-barbe » s'entend de soi. Quant à « sous-pape », il est formé de « sous » et de « pape », qui veut dire la partie inférieure du menton. Il est singulier que la langue ait eu trois mots pour désigner cette espèce de coup. Cela posé, briquet m'a paru comme synonyme de barbe, de pape, et signifiant le dessous du menton. Mais il se refusait absolument à recevoir une telle acception. J'entrais alors dans la voie des conjectures, et il me sembla possible que le briquet fût une altération de becquet, sous becquet, coup sous le bec. J'en étais là de mes déductions, quand l'idée me vint de chercher dans mon supplément et je vis que cette même conjecture avait été émise de point en point par M. Budge, savant scandinave, qui s'est occupé avec beaucoup d'érudition d'étymologie romane. Il faut en conclure, d'un côté, que l'opinion de M. Budge est très probable, et d'autre côté, qu'on est exposé par les souvenirs latents à prendre en réminiscence pour une pensée à soi. Il y a bien un coup sous le menton, un surnom de dérision. Pourtant, quand on tient le fil, on a une explication suffisante de ces soubresauts de l'usage. Et alors, on ne le désapprouve pas d'avoir fait ce qu'il a fait. Surnom est le terme général. Sobriquet y introduit une nuance. Et les nuances sont précieuses dans une langue. Soupçon. J'inscris soupçon au compte de la pathologie parce qu'il devrait être féminin comme il a été longtemps et comme le montre son doublet suspicion. Suspicion est un néologisme. Entendons-nous, un néologisme du XVIe siècle. C'est alors qu'on le forma crûment du latin suspicionem. Antérieurement, on ne connaissait que la forme organique soupeçon, où les éléments latins avaient reçu l'empreinte française. Soupeçon est féminin, comme cela devait être dans tout le cours de la langue jusqu'au XVIe siècle inclusivement. Puis tout à coup, il devient masculin, contre l'analogie. Nous connaissons deux cas où l'ancienne langue avait attribué le masculin à ses noms féminins on. La prison, mais à côté le prison, qui signifiait prisonnier que nous avons perdu, la nourrisson, que nous n'avons plus et que nous avons remplacé par le scientifique nutrition, et le nourrisson que nous avons gardé. Il y en avait peut-être d'autres. S'il avait employé ce procédé à l'égard de soupeçon, la soupeçon eût été la suspicion, et le soupeçon eût été l'homme soupçonné. Notre soupçon masculin est un solécisme gratuit. En regard de soupçon, suspicion est assez peu nécessaire. Les deux significations se confondent par leur origine et l'usage n'y a pas introduit une grande nuance. La différence principale est que suspicion n'est pas susceptible des diverses acceptions métaphoriques que soupçon reçoit. Suffisant. Suffisant à ceci de pathologique qu'il a pris néologiquement un sens péjoratif que rien ne lui annonçait. Car ce qui suffit est toujours bon. Bien plus, ce sens péjoratif est en contradiction avec l'acception propre du mot. Car tout défaut est une insuffisance, comme défaut l'indique par lui-même. On voit que suffisant a été victime d'une rude entorse. Elle s'explique cependant, et s'expliquant se justifie jusqu'à un certain point. Il existe un intermédiaire aujourd'hui oublié dans le XVIe siècle. Notre mot s'appliqua aux personnes et s'employa pour « capable de ». Cela ne suscita point d'objection. Un homme capable d'une chose est suffisant à cette chose. La construction de suffisant avec un nom de personne ne plut pas au XVIIe siècle, du moins, il ne s'en sert pas. En revanche, et comme pour y marquer son déplaisir, il lui endossa un sens de dénigrement relatif à un défaut de caractère, le défaut qui fait que l'on se croit fort capable et qu'on le témoigne par son air. Si bien que le suffisant ne suffit qu'en apparence.